Marcel, il est bienvenu avec
bonne année.
J'ai dit bonne année.
Ouais, c'est pas grave.
Danny Ruet.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Tom.
Tom Villa.
Bonjour Daniel.
Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure. Et notre invité Chantal Lobby.
Bravo.
Chantal. Bonjour.
Non, tu fais très mal,
je fais mal Chantal. Ouais,
ouais. Comblé, je vais la chercher.
D'accord.
Comblé, c'est-à-dire.
En tout cas, c'est
ce truc comme
alors,
ça.
C'est un très joli film.
Pourquoi elle est là?
Alors, elle vient pour nous présenter un film qui s'appelle Sol.
Oui.
Et elle arrive.
Chantal Lobby.
Bonjour.
C'est incroyable. On l'avait oublié dans le placard, Chantal, c'est ça le truc. On parle aujourd'hui d'un film qui s'appelle Sol, un film de et avec Jezabel Marquez, qui sort demain en salle, avec Camille Chamou aux côtés donc de Chantal Lobby, Giovanni Pucci, Serge Bagdasarian, Yannick Régnier. L'histoire d'une star, on peut pas dire... prends ton temps pour t'installer, hein, Chantal, mais vraiment...
Elle peut aller à son rythme ou pas? On est pressé ou pas?
C'est une star. C'est une star.
C'est une chanteuse incroyable connue en Argentine parce que c'est une grande chanteuse.
Chanteur latino.
Chanteuse.
Et surtout, une grand-mère.
Oui, alors voilà. Ouais. Mais une grand-mère qui ne connaît pas son petit-fils et qui revient dans la ferme intention
de le connaître.
Pas spécialement de se l'accaparer non plus. Au début, c'est juste, je veux le rencontrer une fois.
Bah oui, quand même une fois, mais même plus. Peut-être, je pense qu'elle espère au fond d'elle, elle espère pas un peu plus, mais le voir et rencontrer sa belle-fille aussi.
Au début du film, voilà, on sait pas trop les raisons du silence ou de l'absence qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a eu un clash, une dispute?
Il y a eu un clash, certainement, parce que ça... Jezabel m'a évoqué cette chose-là, il a fallu que je me la fasse mûrir un petit peu dans ma tête, c'est-à-dire me dire comment c'est possible de se disputer avec son enfant et de rester fâché si longtemps.
Ouais.
Ça, c'est le truc qui me marquait le plus, et du coup, je l'aimais pas, cette femme. Elle m'énervait, je me disais, comment elle a pu rester fâchée comme ça avec son môme? Et puis après, on peut
avec
comprendre...
Avec son fils, qui est le papa, donc...
Qui est le papa de ce petit-fils.
Qui lui a disparu.
Oui.
Le papa n'est plus de
ce monde. Il est
mort
dans un accident de voiture.
Voilà.
Il s'était pas vu depuis pas mal d'années. Lui vivait en France, elle continue de vivre
en Argentine.
En Argentine. Et puis voilà, et un jour, elle décide de rattraper tout ça.
Alors, sans tomber dans le Mrs. Doubtfire version grand-mère, il y a un côté quand même usurpation d'identité pour s'approcher du petit et de sa maman avec tout ce qui va, c'est-à-dire les mensonges, c'est-à-dire les...
Petits mensonges.
Ouais.
Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une femme,
mais
c'est une femme éclatante, bouillonnante, et d'un seul coup, pour une des rares fois de son existence, elle a la trouille.
Mais elle a
les jetons, et d'un seul coup, elle se met à mentir au dernier moment.
Elle ne sait pas si sa belle-fille va l'accueillir. De quelle manière? D'abord, sa belle-fille ne sait même pas qu'elle existe.
Et elle se pointe, c'est le début du film, je crois que c'est dans la bande-annonce, elle se pointe en répondant à une annonce pour une jeune étudiante pour louer un appartement.
Oui, oui.
Et là, jeune étudiante, calme, silencieuse, ne faisant pas de bruit.
Ne fumant pas.
C'est moi.
C'est moi.
Elle réussit à avoir l'appartement.
Et c'est de là que part cette comédie qui est aussi extrêmement émouvante parce qu'il y a un regard tendre sur la famille, sur la transmission, sur l'éducation. Il y a des rapports de femmes aussi très intéressants entre Camille Chamou et vous.
Camille qui est très fermée,
le duo fonctionne
qui est
très
coincée,
très bien.
C'est difficile à l'approcher, à discuter avec elle.
Et au sens propre du terme aussi, physiquement, oui. elle n'aime pas qu'on la
serre dans ses bras. Je sens que je l'énerve.
Ouais.
Je sens bien que j'énerve, que quoi que je fasse, ce ne sera pas bien.
Elle ne sait toujours pas que vous êtes la mère de son mari.
Non, non.
Et vous l'énervez déjà.
Je l'énerve en arrivant.
Ça s'appelle Sol, Sol pour le diminutif de Solange, Sol aussi pour la note de musique du tango. On va continuer d'en parler dans quelques instants. Mais d'abord, nous avons notre...
Nouveau jeu.
Voilà, nos affirmations.
Nouveau jeu.
Je ne sais pas, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier.
Ils étaient où?
Trois affirmations, tiens, si tu peux les passer à Chantal. Chantal, trois affirmations, vous devez vous débrouiller pour que, quelle que soit l'affirmation, vous n'êtes pas obligé de les prendre dans l'ordre, vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. Vous êtes obligé de faire planter en fait la bande. La bande doit se tromper, que ce soit juste ou que ce soit faux.
J'ai déjà mangé du hérisson.
Alors vous avez droit à deux questions chacune.
À quelle occasion c'était?
Oui.
Une certaine occasion.
Ah, je vois qu'on est précis dans les réponses.
Une occasion certaine.
D'accord, merci Chantal.
Si, c'était... alors, attendez, j'avais mangé du hérisson. Oui, avec des forains.
D'accord.
Oui.
Tom Dylan.
Dans un camping.
Ça se mange comment le hérisson? Il y a un accompagnement à côté, c'est avec des frites.
Avec les doigts.
Avec les doigts.
On n'avait pas de fourchette, on était assis par terre et puis on mangeait avec les doigts comme ça. C'était sympathique.
Ça se rapproche de quelle autre viande?
Le hérisson, bah écoutez, du rat.
Ah, tu veux dire en termes de goût?
Du rat?
Du rat?
Du lapin. Du lapin.
Ah oui, parce que si vous avez comme référence le goût du rat, ça veut
dire. Vous mangez souvent du rat?
Du lapin.
J'aime la deuxième affirmation.
Il était cru ou il était cuit?
C'est ta deuxième, c'est ta deuxième et dernière question. Oui.
Il était cuit.
Leïla, t'as posé aucune question, toi?
Mais non, mais je l'observe.
C'est mal les mentalistes.
C'est ça, j'ai l'impression.
Ouais. Leïla sort de boîte. Hein,
non, mais Chantal, qu'est-ce que ça vous fait de manger un petit animal vivant comme
Chantal
ça?
Enfin, il était mort.
Je
sais pas, comme
ça. Un hérisson, ça a des trucs qui piquent.
Oui.
Donc si je le bouffe vivant, c'est un peu dur. Mais oui. Non, il était mort là.
D'accord, ok, donc ça j'avais compris.
Donc t'as cramé une première question,
ouais, j'ai cramé une question, une dernière question. Comment je pourrais la voir, la Chantal, là? Parce que...
Il avait fait cuire... comment il avait fait cuire, non? Au feu de bois.
À quelle occasion? C'était des amis?
Ben, un repas.
C'était des gens que j'ai rencontrés comme ça.
Bon, allez, c'est fini. Fanny, ton avis.
Honnêtement, je pense que c'est faux.
C'est faux. Leïla? Leïla,
je sais pas, je pense que c'est vrai.
Ok, Daniel,
je pense que c'est vrai.
Et
c'est faux.
Tom, c'est faux. Ah ouais, non, mais à deux.
Ah bah si, si, 50-50.
Et toi, Nagui?
Ça va pas. Moi, je sais. Ouais, donc, c'est pas drôle.
Non, mais c'est faux, alors. Je vais dans le coin des faux.
Ok, la majorité dit que c'est faux. Chantal Lebie, avez-vous mangé ou pas un hérisson?
Bien sûr.
J'ai mangé du hérisson.
Vraiment, avec des forains sur le sol?
Je faisais du camping avec une copine, on devait avoir 17-18 ans, du camping de campagne. Et sont arrivés des forains qui avaient des manèges et tout, ils sont venus s'installer à côté de nous. Ils ont fait des feux de bois, ils ont commencé à jouer de la guitare, on a rejoint le groupe. Ils étaient en train de manger du truc, ils ont fait goûter. Alors et après, ils nous ont dit que c'était du hérisson.
Ouch.
Voilà. Donc c'était une viande blanche, c'est pas mauvais. Hein. On aurait dit du lapin, c'est la vérité. Mmh.
Que vous n'aimez pas. Donc vous n'aimez pas le lapin, vous n'aimez pas plus
mais bon,
le hérisson.
Mais bon, c'était pas une viande, voilà.
Ouais, ouais. On veut pas.
J'en mangerai pas tous les jours.
Ça, j'ai bien
quel dommage, je crois qu'il y en a la quantité.
C'est la seule fois.
Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Il vous reste deux papiers, vous prenez celui que vous voulez.
Alors.
Chantal Lobby.
J'aurais dû réaliser les tuches.
Qui commence? Daniel.
C'est parce qu'Isabelle Nanty ne voulait pas le réaliser?
Non.
Non.
Vous avez déjà réalisé un film, Chantal?
Oui, Laisse tes mains sur mes hanches.
Mmh. Ah ouais, c'est vrai, c'est vachement bien. Tom?
Je crois que j'ai la réponse, donc...
Ah, t'es sûr?
Non, mais... C'était vous à l'origine ou pas? Il y a eu un petit changement et...
Il y a un changement parce qu'elle n'a pas réalisé.
Oui,
C'est pour la réalisation, c'était moi à l'origine.
Alors,
oui.
D'accord.
Mais vous avez déjà réalisé les tuches?
Comment?
Vous avez déjà réalisé
Non, c'est toujours Olivier Barou.
C'est Olivier Barou qui a réalisé
Fanny
les tuches.
Fanny Ruey. Tu es parmi nous, Fanny, ou tu es en 2019?
Elle réfléchit, je me laisse inspirer par Leïla, donc j'observe.
T'es encore en 2019, j'ai l'impression.
Comment on fait?
Eh ben, ça avance pas.
Mais non, non, non.
Mais non, mais le problème, c'est que...
Mais vous l'avez scénarisé, non?
Oui.
Ah, d'accord. Bon.
Est-ce que vous avez quand même été payé?
Oui.
Est-ce que vous avez déjà mangé du rat?
Non, c'est pas ça. Ok, donc alors, on est sur une piste, j'ai l'impression. Là.
On dit oui.
Elle aurait dû le réaliser?
Ouais. Jamais de la vie.
Chantal, la majorité dit oui.
C'était compliqué de ne pas lui répondre, de mentir sa réponse.
Non.
Oui, j'aurais dû le réaliser. J'avais appelé comme un ouragan. On m'avait proposé un scénario.
C'est une référence
de...
monégasque.
Oui, non, oui, c'était parce que justement dans le premier, les tuches partaient à Monaco pour rencontrer la princesse. Voilà,
ouais, comme un ouragan, la chanson de Stéphanie. Ouais.
Et donc je l'avais appelé, je voulais pas l'appeler les tuches. C'est un scénario de Philippe Mechelin, assez épais, assez gros. Il fallait retravailler pas mal de choses, mais il y avait une bonne base et j'adorais les personnages. J'ai écrit avec lui, on a retravaillé, on a fait les dialogues. Et puis avec la prod, il y a eu des petits trucs. J'avais pas envie qu'on m'amène vers la grosse comédie. Je voulais faire un style Little Miss Sunshine, vous voyez, un peu plus machin. Et donc j'ai arrêté le film. J'avais demandé à Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve de faire le film avec moi. Ils m'avaient dit oui. Et le film est resté sur une table pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'Olivier Barou le lise. Ça lui a plu et il a réalisé.
Et avec le recul, d'abord vous avez vu, j'imagine, ces différents film, cette saga, non ?
Bien sûr, oui. j'en ai vu deux.
Vous avez des regrets ou pas ?
J'ai les regrets de ne pas avoir fait le film que j'avais envie de faire, mais pas de regrets en voyant ce qu'a fait Olivier. Il en a fait une belle comédie. Clairement. Qui plaît aux gens, il y a du monde pour le voir.
Et qui est même de mieux en mieux, c'est, ah oui, ce qui est assez rare dans ce genre de saga. On a l'impression que quand le numéro 2 et le numéro 3, on dit pff, ça fatigue un peu.
Les personnages sont très attachants, moi c'est ce qui me plaisait. J'aimais le côté enfantin de ces personnages.
Allez, une autre affirmation, la dernière.
Alors la dernière, c'est quoi ?
J'ai mangé du hérisson. Non, pas celle-là.
J'ai jeté des grenades sur la maison d'une grand-mère.
Est-ce que c'était des vraies grenades ou des grenades à plâtre ?
Des grenades à plâtre.
C'est quoi les grenades à plâtre,
des concentrées ?
C'est des fausses, quoi. C'est, oui, c'est comme des balles à blanc, quoi, tu veux dire. D'accord.
C'était dans le cadre d'un film ?
Non, 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 c'est dans la réalité.
Vous aviez quel âge à peu près ?
J'avais 19 ans.
Quel était le mobile ?
Quel était le mobile ? L'inspecteur mène l'enquête.
Qu'est-ce qu'elle avait fait ?
Faire chier la grand-mère d'un copain.
Mais qu'est-ce qu'elle avait fait ?
J'en sais rien, il ne me l'avait pas dit.
Qu'est-ce que vous faisiez avec des grenades à plâtre en votre possession ?
C'était pas moi qui les avais, c'était le gars qui conduisait l'avion.
Ouf. C'était super balou.
Pardon, le gars qui conduisait l'avion, elle a dit ça.
C'est l'avion.
C'est l'agence touriste.
Alors, il est sympa, Hannibal ou
Ah oui, parce que c'est, elle les a balancés du ciel.
Je sais pas.
Vous les avez balancés du.
Bah évidemment. Vous voulez que ça se balance d'où ?
C'est trop bizarre, ça doit être vrai. Il y a pas le choix.
Non mais attends, tu balances des grenades. Attends, on est d'accord.
Il y a eu beaucoup de dégâts ou pas ?
Mais déjà, ça fait pas de dégâts,
de c'est un truc
c'est à blanc. Non, ça fait pas de dégâts, les.
Si,
quand même, toi qui t'y connais.
Moi, tu m'y connais,
toi qui es l'armurier. Ça fait pas de dégâts ?
Non, ça fait
pas. Non, ça fait pas de dégâts, ça fait du bruit.
D'accord.
Non, mais comment on se retrouve dans un avion à balancer des grenades ?
Alors, moi non plus, je sais
non,
pas.
Non, mais il faut une réponse alors. Vrai ou faux ? Leïla.
Moi non plus, je sais pas.
Leïla.
C'est vrai.
Ouais,
c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire c'est faux. Les deux premières étaient vraies, donc du coup, la dernière est fausse.
Mais c'est vrai, c'est trop bizarre pour être faux.
Chantal Lobby, mais est-ce que vous avez jeté
Ah, yes.
Enfin, je sais pas si on peut applaudir. Je sais pas qui on applaudit.
Mais si, bah, la grand-mère. Hein.
Non, vous avez jeté des grenades.
Mais c'est pas moi qui les ai jetées, c'est lui. Sa grand-mère l'énervait. C'est un garçon que j'avais rencontré à Tours et tout. À l'époque où j'ai eu des dépensements, quand j'étais toute jeune. J'étais jeune même, je devais même avoir 17-18 ans. Et un jour, il me dit, en le rencontrant en détail avec des copains, il dit « Oh, ma grand-mère, machin et tout, je vais aller lui jeter des grenades au plâtre. Tu viens ?» Je dis « Oui, moi !»
Ah oui.
Et on est monté dans cet avion, et en fait, il a jeté des grenades au plâtre. Sa grand-mère ne me rendait pas trop compte de ce que c'était. Mais je sais qu'on s'est fait engueuler après, quand on a atterri. On s'est fait engueuler parce qu'il avait dépassé l'heure de décollage pour repartir.
Ah, il n'avait pas le droit de...
Il y a une certaine heure et on est arrivé en retard. Mm-hmm. Et c'est le souvenir que j'ai gardé, moi, c'est de l'engueulade qui s'est pris en arrivant.
Bon, mais merci Chantal pour toutes ces
conflits. J'avais aucune conscience du danger.
Ah, j'adore. Mais donc, elle a mangé du hérisson.
Ouais.
Elle a jeté des grenades sur une grand-mère.
Et elle aurait pu réaliser
les tuches. Voilà, on a fait le tour.
Merci Chantal.
Ben merci d'être venu Chantal.
Et à mon avis, il y en a d'autres qu'on gardera pour la prochaine fois où vous viendrez dans cette émission. Alors reparlons de Sol avec Jezabel Marquez. Quand on vous a proposé ce projet, justement, Jezabel Marquez vous a présenté votre personnage comme étant une femme qui revenait avec des regrets, comme étant une manipulatrice, comme étant une comédie ou comme étant quelque chose de
une comédie déjà. Ouais. C'est sûr, elle me l'a présenté comme une comédie, comme des mots. Elle était partie d'une musique, Jezabel, pour écrire ce film, d'une musique qui lui faisait penser à sa grand-mère. Et c'est tout des états, certainement, de relations avec sa grand-mère qui l'ont touchée et qu'elle avait envie de remettre en film, même si ça ne ressemble pas à son histoire. Et quand elle me l'a proposé comme une comédie, effectivement. Le truc, elle m'a parlé du tango, ça m'a fait peur. Mmh. De la chanson, ça m'a fait peur, parce que bon. Je suis pas très souple, mais mais en même temps l'histoire, je sais pas.
Vous avez déjà chanté Carmen ?
Oui, j'ai chanté Carmen.
Ça, c'est pas une affirmation vraie ou fausse. Vous avez vraiment chanté Carmen ?
J'ai chanté Carmen, oui.
Qui est sortie en disque ?
En disco.
Carmen Disco. Okay,
c'est
d'accord.
Pas vrai.
D'accord.
Et c'était au premier degré ou c'était dans le cadre de certaines années
Non, non. Ça, c'était au premier degré.
Ah
oui,
d'accord.
Oui.
On l'a ou on l'a pas le disque Bon, d'accord, on l'a pas. Bon,
ça commençait par ce n'est pas facile aujourd'hui d'être la petite fille de Carmen quand on vit dans un HLM et qu'on est une bohémienne. Voilà le titre.
Le pitch.
Le pitch. Okay. Mais bon, on revient au tango.
Ok. Le tango, oui. Le tango,
non, c'est
ça.
Elle me l'a présenté. ça c'est Super Tango, c'est pas celle-là.
Mais c'est dans la bande originale quand même.
Ça c'est le film, le vrai.
Oui,
mais c'est pas.
C'est pas Carmen, oui, j'y vais. Oui, oui, j'y vais. Oui.
Super.
Non, je voulais qu'on réentende la bande originale de Sol. Ouais. Il y a déjà aussi un côté à la fois sexy dans le tango et à la fois dramatique aussi.
C'est magnifique le tango. Il y a quelque chose de très sensuel dans cette danse. Je trouve qu'il y a un côté provocant dans la manière de se tenir.
Mais avec de la retenue en même temps.
Hein, avec de la retenue, le regard, la manière de tenir l'épaule, de s'attraper, de monter la jambe, le long de la jambe du partenaire, etc. C'est quand même une...
C'est chaud.
C'est chaud.
Sensuel. Hein. Oui,
oui. Mais d'ailleurs, vous dansez dans le film ce...
J'ai pris des cours. Isabelle m'a fait prendre des cours et tout. Et je suis allée prendre des cours de tango, ça m'a plu. C'était bien, ouais, parce que je découvrais un peu cet univers, complètement même cet univers. J'avais dansé le tango quand j'étais plus jeune avec mon père. Un pas à gauche, deux pas à droite, le truc classique. Mais là, ça, c'est le tango argentin, c'est le vrai tango.
Le vrai. Alors, il y a un élément extrêmement important, un personnage extrêmement important dans le film, évidemment, c'est l'enfant. Le rapport qu'il y a avec ce petit garçon qui balance des vannes, mais qui...
Il est magnifique.
Mais il est génial. Il est génial. Moi, j'ai horreur des enfants au cinéma, mais lui, du début à la fin,
tu sais pourquoi Parce qu'il est vrai.
Il est vrai.
Parce que les phrases dites par cet enfant sont les phrases d'un enfant de 7-8 ans. Alors je me demande quelle est la part d'ailleurs d'autobiographie de
Non, c'est
Isabelle.
Écrit, c'est écrit par Jazz.
Oui,
par
mais j'ai l'impression mais qu'elle, lui, a, qu'elle a vécu, amène... qu'elle a vécu ce genre de phrase par un autre enfant. C'est pas possible.
Oui, certainement. Je pense qu'elle s'est inspirée de ses enfants aussi. Elle a deux petits enfants et elle s'est inspirée de ses enfants aussi. Mais la manière dont il a de les balancer, il parle très fort. C'est-à-dire qu'il ne fait pas comme un adulte, on va réfléchir, on va faire un peu attention quand on parle, quand on s'exprime. Lui, il y va, il projette.
Mais comme un enfant.
Et c'est le côté enfantin
qui
existe et qui n'a pas été gommé par Jezabel. Au contraire, on ne lui a pas dit de la mettre en veilleuse, de le faire moins fort. Il a joué vrai.
Et d'un côté, cette grand-mère qui redécouvre son petit enfant dans ses rapports, parce qu'on va sans déflorer le film, vous l'avez compris, elle obtient l'appartement qui vient pour aider Camille Chamou à arrondir les fins de mois parce qu'elle a des problèmes financiers. Elle va dépanner de temps en temps en allant chercher le gamin à l'école.
Elle va se rendre indispensable.
En jouant, en rangeant la maison, en lavant les carreaux.
Elle va en faire des caisses.
En faisant laver les carreaux.
On dit pas, en lavant, elle a des talents de fée du logis un peu oubliés.
Elle passe dans un appartement, elle ressort, tout est rangé, tout est nickel, tout est propre.
Impeccable.
Ce qui est drôle, c'est que c'est déjà, et on voit bien d'ailleurs le personnage de Camille Chamou qui est extrêmement tendu.
Fermé.
Puisque, oui, non mais il y a.
Triste.
Il y a deux affaires qui traînent sur une table basse et elle dit faut que je range ces. C'est n'importe quoi dans cette maison. Elle est
très rigide, très fermée, très psychorigide complètement. Et en plus, c'est une fille, une femme qui vit son deuil.
Et elle est psychorigide dans l'éducation de son fils. Et c'est justement la folie, l'originalité, la musique, le rire, la vanne que va apporter.
Ça ne fait plus partie de sa vie à cette femme. Donc, Sol va arriver, même si au fond d'elle, Sol est certainement malheureuse. Mais en tout cas, elle va se la jouer complètement épanouie, heureuse et pleine
d'entrain. Parce que Sol, oui, c'est la note de musique, oui, c'est le diminutif de Solange, et puis c'est le soleil, quoi.
C'est-à-dire, elle
rayonne, elle va apporter
les deux vont
une lumière
s'apporter.
Dans cette maison.
Les deux vont apporter. L'une va apporter à l'autre, je trouve, qu'elles se complètent bien toutes les deux. Moi, en essayant de la sortir.
De la débrider,
ouais. Je me débride certainement plus profond de moi aussi. Et en même temps, mon petit-fils, je lui apporte quelque chose.
Il y a une vanne. Il y a plusieurs, mais il y en a une qui m'a fait vraiment hurler de rire. C'est la première fois que vous allez chercher à la sortie de l'école et il joue avec les cigarettes. Ah. Et il y a les mamans qui sont choquées de voir un petit enfant de. Il a quoi? Il a 8-9 ans dans le film?
Oui, il a 8 ans.
Ouais. De jouer avec des cigarettes. Et à ce moment-là, Chantal Lobby qui regarde les autres mamans et qui dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire arrêter l'alcool.
Elle est très provocatrice, c'est vrai qu'elle est.
Oui, et puis elle répond, elle envoie bouler les autres.
Bouler tout de suite.
Mais c'est-à-dire qu'on imagine que c'est vous, en fait, par certains aspects.
Mais c'est peut-être pour ça que Jezabel a pensé à moi.
Ouais, ça vous va.
C'est tellement
hyper
du Chantal Lobby.
Ouais, ça vous va hyper bien.
Et aussi la réflexion qu'elle fait aux autres mamans. Qui explique le comportement de sa belle-fille. Ouais. C'était à cause d'une allergie.
Exactement. C'est bourré de vannes.
C'est
une part autobiographique, justement. Et qu'est-ce qui fait partie de la vie de Jezabel Marquez?
Je pense que c'est, vous savez, un film, ça part d'une musique et puis après ça nous emmène ailleurs. Je pense que c'est des choses de sa vie, de vécu, de choses comme ça. Elle avait envie de montrer comment on pouvait se rassembler, comment on pouvait s'apporter les uns les autres, qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer des choses.
Sans qu'il y ait spécialement de, entre guillemets, de conflit de génération, voilà, entre la grand-mère, la maman
la
et le petit.
La maman, au contraire, ouais, de rassembler tout le monde. Et ces trois générations sont en train de se rassembler.
Et en rassemblant ces générations, c'est aussi, ça apporte à votre personnage parce que finalement vous êtes une sorte d'âme libre, d'amoureuse, légère d'une certaine façon, et puis vous faites quand même...
Elle joue avec les hommes.
Ouais, vous avez un duo génial, en même temps vous avez un goût incroyable, parce que Serge Bagdasarian, c'est quand même le partenaire idéal.
Voilà, un monsieur de la comédie française, quand même,
notamment,
que j'adore.
Qu'il est super, enfin, en plus, il est formidable. Il chante très très bien, il danse très très bien, et il a beaucoup beaucoup de talent.
Beaucoup de classe.
Et finalement, votre personnage commence à accepter aussi un rapport un peu amoureux, plus simple peut-être.
Oui, je pense que c'est un vieil amour. Tous les deux, ils ont eu une histoire certaine une époque, et cette histoire s'est transformée en amitié, amour-amitié. On sent qu'ils sont quand même toujours très proches et heureux de se retrouver. Et j'aimais bien ce côté léger de la relation entre ces deux personnes qui vieillissent, et d'un seul coup, ça reste léger.
Il y a ce titre aussi dans le film.
Fumar es un placer,
qui revient beaucoup.
Chanson de Sarah Montiel.
Fumando espero al hombre a quien yo quiero.
Seul, c'est solaire. Le soleil, on en a besoin en ce moment. Et c'est au cinéma ce mercredi avec Chantal Lobby. Et j'avais pas donné le nom du gamin. C'est Giovanni Pucci. Pucci, voilà.
Oui.
Qui est incroyable. Absolument remarquable et qui rêve d'avoir une coupe de cheveux de joueur de foot. Et qui finira par.
Et ma rencontre avec Camille Chamou aussi. J'étais contente de découvrir Camille,
elle
de jouer
parfaite.
Avec elle. Elle est formidable dans le film. Je trouve qu'elle arrive, elle qui est si solaire, justement, dans la vie, arriver à se freiner comme ça, à se bloquer comme elle l'a fait, j'ai trouvé formidable.
Et c'est une bonne camarade
sur
le plateau, ouais.
On s'amuse bien toutes les deux.
Seul au cinéma, demain, on vous encourage à le voir. Voici Monsieur Tom Villa. Tom Villa, expert en rien, comme toujours.
Toujours, ça continue.
Et Tom Villa, dans le film, Chantal a des problèmes donc de famille, mais vous êtes au courant qu'on choisit ses amis et qu'on ne choisit pas sa famille.
Elle est con, cette phrase.
Mais non, c'est une chanson.
Non, mais c'est Maxime Le Forestier à Taratata qui vous l'a dit, ou vous l'avez vu dans Psychologie Magazine. Mais elle est con, on choisit pas sa famille. Oui, alors si on n'a plus le droit de faire des fautes de français, parce qu'après, il y en a qui croivent qu'on sait pas parler ici à la bande originale. Elle est con, on choisit pas sa famille. Mais si on pouvait choisir sa famille, on s'est bien emmerdé. C'est vrai, Nagui, c'est quoi le symbole de la famille parfaite? La famille unie, c'est la famille, la famille Ingalls, dans la petite maison dans la prairie. Mais moi, j'en veux pas. Vive assise dans une cabane en bois. Voilà, c'est ça, le père il coupe du bois, l'autre a fait des tartes aux pommes. Au milieu de la baraque, elle est au milieu d'un champ, les chiottes ils sont dehors dans la maison, tu vois, dans une espèce de placard, là, t'as envie de pisser la nuit, t'as une chance sur deux de te faire bouffer par un loup, ou de te prendre un coup de fusil par ton père qui pense que t'es un loup. Non mais voilà. Non mais à la limite, non vraiment, moi je vous jure, je préfère qu'il me tire une balle. Enfin, je demande à le faire moi-même parce qu'avec ma chance, c'est la petite aveugle qui pourrait tirer, elle me louperait.
Marie.
Non, en vrai, au final, à la limite, quitte à choisir une famille, choisirais la famille Kardashian. Bah déjà parce qu'il y a de l'animation et puis surtout au milieu de la famille j'aurais l'air d'un génie, donc ça c'est c'est vrai. Je vais pas choisir la famille Glucksmann, je veux dire philosophe de père en fils, ça va se voir que j'ai pas besoin de finir cette phrase. Non mais les Kardashians c'est super pour moi, il y a du pognon, il y a pas peur des lendemains. Mon beau-frère c'est Kanye West, futur président des États-Unis. Ça arrache un peu mais ça va passer. Voilà. Et puis s'il y a un moyen de voir Kim Kardashian sous la douche, c'est ma sœur du coup. Oh, puis pourquoi pas?
Si internet, tu peux voir les images.
Non, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Ça veut rien dire, cette phrase. Alors, je précise aussi pour celui qui a inventé cette phrase à la con, qu'on choisit pas ses amis. Bah non, parce que, en fait, normalement, ils ont leur mot à dire. Parce que, à la limite, moi, je choisis Leonardo DiCaprio, en ami. Mais faut qu'il soit d'accord. Mais je pense que le mec qui a inventé cette phrase, il m'énerve, on choisit pas sa famille, En fait, on choisit rien dans la vie. On choisit pas sa couleur de peau, on choisit pas son sexe, on choisit pas son orientation sexuelle, on choisit pas son pays de naissance, on choisit pas son accent. La vie, c'est un loto, et puis après, tu te démerdes. Je pense qu'avec des réflexions comme ça, en fait, je peux choisir la famille Glucksmann.
Non.
Et puis si tout le monde choisit sa famille, vraiment une famille équilibrée qui te donne de l'amour, de la confiance et un certain équilibre, comment est-ce que France Inter va faire pour trouver des chroniqueurs? Je sais pas. En tout cas, bonne émission.
En Belgique. Merci
sur
Tom.
Et Tom, on te retrouve sur scène au République, c'est à Paris. Oui. Demain, à partir de 21h30, demain mercredi, pour ton spectacle Les Nommés Sont.
Yo no voy a meter meter mis manos en esos guantes llenos.
Chantal Lobby dans le film Sol, c'est la première fois que vous avez un rôle, le premier rôle toute seule. Il y a évidemment le film des
nuls. Je ne suis pas toute seule. Hein.
Bah, vous avez quand même
le rôle titre qu'on dit, voilà.
Ouais, c'est ça,
mais je ne suis pas toute seule, je suis bien entourée.
Évidemment,
hein.
Ça,
mais
il
y a eu les nuls, il y a eu le mien, l'Estéma. Il y a eu, puis j'ai fait des tas de... J'étais contente d'être avec d'autres partenaires et tout ça.
Non,
tout
là,
tout
vous,
me plaît.
Vous le portez sur vos épaules.
Là, je le porte sur mes épaules.
Ouais. Vous avez douté? Vous vous êtes posé une demi-journée en disant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas?
Non, j'ai
c'est
pas
Dominique,
douté.
C'est Dominique Farrugia qui produit le film.
Il produit le film avec Studio Canal et tout. Et voilà, donc je...
C'était une évidence pour vous, il fallait... Ouais, c'était à faire.
Ouais, c'était la manière dont elle m'en a parlé, cette femme, tout ça... Tout ce qu'elle m'a dit sur elle, j'avais envie, je sais pas.
Et la place des hommes dans cette histoire-là, parce qu'évidemment, il y a le mec, Giovanni Pucci,
le petit mec.
C'est l'homme, ouais, c'est le bonhomme autour duquel tout se passe. Mais il y a l'absence, il y a un jeu de séduction autour de Camille Chamou, il y a vous qui dominez les hommes en dansant le tango avec eux et qui les faites un peu marronner.
Fantôme.
Pardon?
Le fantôme.
Il y a le fantôme, oui, c'est ça. Il y a l'absence de votre fils, du papa,
fils,
du petit,
ouais.
Donc, les hommes là-dedans sont...
Ils sont présents,
ils sont
tout le temps.
Présents, mais un ils sont présents, mais
ils sont un peu décoratifs.
Oui, ils sont décoratifs et en même temps, parce que ces femmes ne sont pas dans ce truc-là. Ce n'est pas leur truc du moment. C'est pas leur
urgence.
Ce n'est pas leur urgence. Ouais. Voilà, le rôle de Camille, d'Eva, par exemple, qui a perdu son mari, pour elle, c'est quelqu'un qui, quand on est en deuil... C'est difficile de se dire, il me plaît bien celui-là, j'y retournerai bien.
Elle s'interdit,
c'est dur, parce
qu'elle
dit,
c'est compliqué.
Ça fait 7 ans, il a 7 ans le petit garçon,
il a 7 ans.
7 ans de
donc 7 ans, 7 ans ouais, elle est bloquée, c'est pour ça qu'elle est fermée comme ça. Elle n'ose pas, elle n'ose rien faire,
non,
elle s'est retrouvée seule avec son fils.
Entre guillemets, le mythe du père en racontant tous les soirs un secret ou une histoire entre son mari et elle, donc, au petit garçon, parce que le petit garçon est en demande
de son papa.
Et papa était comment? Et qu'est-ce qu'il te disait?
L'histoire de son père.
Voilà.
Donc c'est...
Ça laisse pas beaucoup de place, quoi.
Non, ça laisse pas de place. Et c'est pour ça que Sol est... C'est important, les relations entre cette femme et sa belle-fille. Elle va l'aider à se sortir de là, déjà en s'habillant autrement, en faisant d'autres choses, en essayant d'être une femme plus attirante et tout ça, de recommencer à vivre.
C'est extrêmement drôle, mais aussi, vous l'avez compris, extrêmement touchant, parce que les rapports qu'il y a entre le gamin et sa grand-mère, et y compris avec sa maman aussi, parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Voilà. Et puis il y a une scène extrêmement touchante et même bouleversante, c'est aussi la voisine, vieille dame acariâtre.
Madame Verdier.
Verdier, Pesquier, je ne sais pas.
Verdier.
C'est ça, Verdier. qui explique, et c'est presque, ça devrait être un spot publicitaire, qui explique pourquoi il y a des dames qui sont chiantes dans l'immeuble. Voilà, ça c'est tellement
c'est
fort. Tellement fort. Ça s'appelle Sol, c'est au cinéma demain. Et Fanny Ruet, c'est à la radio maintenant. Là, voici Fanny.
Salut les vieux.
Oh, dis donc.
Bah, dis donc.
Ah, bah, alors.
Et Chantal Lobby. C'était vos vacances de Noël.
Super. Ah, bah, ouais. C'est pas de foutre.
Mais... Moi, j'ai passé mes vacances à rompre avec mon mec. C'était super.
C'était super.
On est tellement heureux de plus être ensemble qu'on a deux doigts de se repécho. Mais bref, je suis très contente d'être en... Et tu peux rire, hein, Leïla, c'est ok.
Ah ouais,
non, c'est... Oui, non, vraiment, vraiment, très heureuse. Mais bref, je suis très contente d'être en janvier. En plus, c'est une période que j'aime beaucoup parce que c'est celle des bonnes résolutions. Et c'est très drôle, les bonnes résolutions, parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi on attend le 1er janvier pour tenter d'arrêter de se comporter comme un abruti? Genre, si l'idée d'avoir un cancer du poumon t'a pas fait arrêter de fumer, pourquoi le fait que la Terre ait fait un tour complet autour du Soleil va t'aider? Mais dans le fond, même si ça n'a pas de sens, bah, j'aime bien ça, les bonnes résolutions. J'aime bien ça, déjà parce que j'adore voir les gens échouer.
Faut attendre 15 jours à peu près.
Même pas. Non, j'adore voir les gens échouer. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire la bio Wikipédia de Daniel Morin. Mais aussi, j'aime bien les bonnes résolutions parce que c'est rassurant. C'est hyper agréable de penser qu'un changement d'année va nous permettre d'effacer nos défauts. Genre, tu te sens comme une nouvelle personne. C'est comme après un détartrage. Donc,
c'est vrai.
Oui, je sais. C'est beaucoup trop vrai comme phrase. Donc, j'ai pris une bonne résolution cette année. Et je sais que vous vous dites pourquoi elle n'en a pas besoin. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien faire croire aux gens que je suis perfectible. Ça donne un petit côté accessible et proche du peuple. Donc, ma résolution 2020, eh bien, plutôt que d'essayer de m'améliorer en tant que personne et d'améliorer ma vie, j'ai juste décidé de baisser mes attentes vis-à-vis de tout. Ah. En fait, c'est comme Nagui, au
décocher
final.
Décocher les cases.
Oui, c'est ça. C'est comme Nagui, au final, parce qu'il y a 4 ans, Nagui, il est ambitieux. Il y a 4 ans, Nagui, il avait pris comme résolution d'arrêter d'interrompre les chroniqueurs. Maintenant, il s'en fout. Maintenant, il nous propose d'écrire nos textes pour se rajouter des répliques. Donc, j'ai baissé mes attentes à tous les niveaux, au niveau de mon hygiène de vie. En 2019, j'allais courir 3-4 fois par semaine et tout. J'arrête. Plus besoin. Plus besoin parce que déjà, je me sentais trop bien mentalement. Et voilà, après, je me sens détendue et tout. Et c'est pas comme ça que je vais devenir artiste. Et en plus, si je fais du sport, j'ai peur de devenir trop bien foutue, en fait. Et je veux pas qu'on m'aime pour mon physique, alors que je fais d'excellentes fellations.
Mais ça va pas.
Mais c'est un super bonus.
J'ai également baissé mes attentes professionnelles. Avant, j'avais de l'ambition. Avant, je me disais, voilà, je veux écrire des choses brillantes, je veux la sincérité de Phoebe Waller-Bridge, je veux le génie insaisissable de Saline George, je veux le phrasé de Patti Smith en 2020. Mais je suis résignée, j'ai accepté qu'en travaillant chez France Inter, tout ce que j'allais écrire, c'était des blagues de fellations que j'allais raconter à côté de personnes qui ont une carrière plus longue que ma vie. Et d'ailleurs, culturellement aussi, j'ai arrêté d'avoir de l'ambition. Pour moi, Modigliani, c'est une marque de pâte. J'ai accepté. J'ai accepté que je ne serais jamais cultivée. Aujourd'hui, je n'ai aucun scrupule à l'idée de me tenir à côté de Chantal Lobby et de lui avouer que je n'ai probablement pas vu la moitié de sa filmographie. Et d'ailleurs, pour être honnête, moi j'ai 25 ans, donc je connais surtout votre fille, puisque j'écoutais beaucoup sa musique quand j'étais ado, et je vous avoue qu'elle a joué un rôle assez majeur dans la découverte du fait que j'étais vraiment pas hétéro. Voilà.
Allô Lola.
Elle m'a mise dans des états proches de l'Australie. D'ailleurs...
Joli.
Je vais lui dire.
Ouais, il nous entend.
J'espère. Et d'ailleurs, en termes de relations interpersonnelles aussi, j'ai laissé tomber. Moi, j'ai plus d'espoir. J'aurais pu profiter de 2020 pour tenter d'apprendre à mieux gérer mes émotions, d'apprendre à mieux gérer mes relations, plutôt que d'encore essayer de noyer ma solitude dans du sexe effréné avec Tom Villa. Même si c'est vrai, Leïla me l'avait bien vendu.
Quoi?
Elle m'avait dit, oui, il est pas fut, mais tu verras, ça te donne une blague.
Si, je l'ai entendu, c'est vrai.
Si, elle m'avait promis que ça te baissait mieux que ses blagues. Et voilà, après vérification, je suis tentée de dire que non, les deux tombent souvent à plat. Mais voilà, une de mes vraies bonnes résolutions, c'est d'arrêter les jeux de mots nuls et d'arrêter de dire n'importe quoi sur le pénis de Tom Villa alors que le pauvre garçon n'a rien demandé. Bonne année, les amis.
Merci. Oh, Fanny Ruel. Mais maintenant, je ne pourrais plus l'écouter sans penser à toi, Fanny.
Ah, bah écoute, c'est un ça y est. Hein. Bienvenue.
Et Fanny, on te retrouve sur scène au Barbès Comedy Club, c'est à Paris, tous les lundis. Et à Lille aussi, au Spotlight, ce sera le 17 et 18 janvier. Prenez vos places.
Nous parlons de Sol, le film avec Chantal Lobby, réalisé par. réalisé. Interprété et j'ai oublié quelque chose, écrit par Gisabelle.
Ouais.
Non, mais Gisabelle Marquez.
Ah bah oui, Gisabelle, bien sûr, elle a réalisé le film, elle l'a écrit et elle joue dedans.
Voilà, c'est ça.
Elle joue et écrit le scénario. Il y a Faiza Ghen qui intervient et Vincent Capello. Voilà.
Camille Chamou avec Chantal Lobby, Giovanni Pucci, ce gamin de 7-8 ans qui est absolument merveilleux, Serge Bagdasarian, et je dois rajouter de la comédie française. Yannick Reynier, enfin du beau monde pour un film.
Thierry Lopez.
Sommaire. Ouais. Et puis, vous dites avoir pris des cours de tango. Il a été envisagé que vous chantiez ou pas à un moment
parce que les
premières notes, les premiers chants, je me suis demandé si c'était pas vous qui chantiez.
Non, ça aurait été dommage. Franchement, je voulais pas.
Vous avez pas essayé?
Non.
Mais votre fille?
Il y avait quelque chose de.
Pardon.
Non, mais sur le tango.
J'ai trop de respect quand même pour. Quand j'écoutais la chanson originale. Je me disais, c'est impossible, il faut une vraie chanteuse de tango.
Et la voix de Chantal Lobby quand elle chante, ça donne ça.
Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être la petite fille de Carmen quand on vit dans une HLM et qu'on est une bohémienne.
Une grande chanson.
Et si je vous dis que mon voisin.
Pierre Jolivet qui a écrit le texte alors.
C'est moche de balancer.
Et boum.
Mais on a l'impression. Vous chantez un peu à la bougie de Bardot. Vas-y, ouais. Fais plus fort un peu.
Ça fait un petit peu pub Orangina.
C'était l'époque, c'était le disco.
C'est-à-dire que là, on décèle pas l'intelligence de Chantal Lobby, là, non. En écoutant cette chanson tout de suite.
En même temps, si, parce qu'il faut la faire.
Il faut assumer.
Il faut assumer. Et voilà. Donc, je m'étais bien amusée avec des copains qui habitaient Antibes et qui avaient un studio et on faisait des chansons et voilà.
Vous en avez fait beaucoup ? Vous en avez fait beaucoup, des chansons ?
J'ai fait un super tango.
T'as fait un autre
Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai fait avec toi. Le soleil, je sais pas quoi. Quand les étoiles brillent, l'amour au ciel, pour l'amour au ciel, un truc comme ça. Et puis celle-ci.
Non, mais c'était. Faut préciser une chose quand même, c'est que Chantal présentait les actualités régionales de France 3 Disco d'Azur, voilà. C'était à La Brague, à Antibes. C'était. C'est toujours aujourd'hui une star évidemment du cinéma, mais c'était la star locale, c'est-à-dire que tous les soirs, elle incarnait le JT.
Et je riais bêtement.
Avec quelques fous rires, ouais. Je me souviens de quelques. Il y a quelques
c'était
bêtisiers,
terrible.
Quelques bêtisiers,
ouais.
Parce qu'à la fin du journal, que ce soit avec Jean-François Téaldi, c'est ça.
Je riais.
Ou avec Jean-Michel. Parce qu'il y avait des moments, des plateaux où vous étiez à deux, soit pour faire un point météo ou un point sur une actualité plus culturelle, plus légère, et ça partait en sucette et en vrille. Et c'était extrêmement
drôle
et fort
faite pour,
dans les années 80, pour faire rire.
Pour rire, en tout cas.
Actualité culturelle du côté d'Antibes, ça ne devait pas se bousculer.
S'il te plaît. Il y avait le théâtre de Verdure, il y avait le jazz à Cimier, il se passait plein de choses, il y avait des concerts. Non.
On a fait nos émissions radio, on avait plein de monde.
Mais oui.
Léo Ferré, Ray Charles, tout ça, quand même.
Mais ouais, ça se braque, on va défendre notre région.
On avait fait des belles choses, je me souviens.
Absolument. Chantal Lobby avec ce film Sol, et qui sortira demain au cinéma. On va continuer de parler évidemment de ce film, vous dire à quel point nous l'avons apprécié. Mais d'abord, voici la bande originale de Chantal Lobby. Justement, nous partons dans les années 80 où vous écoutiez.
Ah bah ouais. Comment l'éviter, bien sûr. C'est pas possible.
Comme disait Michael et Coquine.
Elle
a dit comment l'éviter.
Michael Jackson, Billie Jean, vous écoutez cette musique, elle vous renvoie à quoi?
Ah oui, à ma jeunesse,
à des soirs, à
ma fille, à sa naissance, plus ou moins dans les années 80, elle est née en 83, à toute cette période-là.
Et c'est vos débuts aussi à la radio, Chantal?
Mes débuts à la radio, la radio c'était un petit peu plus tôt.
Ouais,
oui, déjà, j'avais commencé à France 3 Radio.
Ouais.
C'est là que j'avais commencé. Et après, ça s'est transformé en Radio France.
Radio France Côte d'Azur, ça s'appelait.
Radio France Côte d'Azur.
En septembre 82.
Où il y avait des émissions comme Azur Rock. Un petit clip vaut mieux qu'une grande claque.
Ça, c'était les émissions télé que je faisais avec Bruno Carrette.
Ah d'accord, ouais. D'accord.
Ips, B3Z.
Parce que Bruno Carrette, j'ai la sensation que c'est en lien avec la radio, vous l'avez recruté.
C'est-à-dire que, oui justement à FR3, on avait besoin d'un animateur et j'ai fait passer des tests à un jeune homme qui était Bruno Carrette, qui sortait d'une école d'attaché de presse et qui est venu faire des tests avec moi. Donc je lui faisais passer des petits essais comme ça. Et après on est allé boire des kirs. Et là on a fait connaissance et j'ai dit ce gars il est génial, il est trop bien et c'est lui qu'il faut prendre et c'est lui qu'on a pris et tant mieux.
Ouais,
et là on s'est découvert l'un et l'autre, on a fait nos premières émissions ensemble.
Et c'est comme ça que le premier noyau a commencé?
Oui, c'est-à-dire qu'on faisait une émission qui s'appelait Bzz, à base de fausses pubs, de parodies, de choses comme ça, qui passaient sur FR3 Marseille.
Nadine Imouk.
On vous laissait.
Nadine Imouk et tout. Il y avait la princesse Nadine Imouk.
La princesse Imouk, son prénom c'était Nadine. Alors, Nadine Imouk.
La princesse Nadine Imouk.
On vous laissait faire ça sur France 3.
Grave.
Ouais. Et vous présentiez aussi les actualités par ailleurs.
Bien sûr.
Vous faisiez le journal, genre bonsoir, les actualités régionales.
Oui. Non. Elle présentait.
C'est pour ça que ça s'appelait Bzz.
Elle présentait le journal et c'était un journaliste qui donnait les infos gênées.
J'étais speakerine, moi.
Si tu veux.
Ah, c'est ma chère
qui va vous présenter. Et c'était moi qui étais chargée d'annoncer les émissions. Donc mon plaisir, c'était de dire, et tout de suite, Bzz. C'est pour ça qu'on l'avait appelé Bzz. Parce que c'était moi qui devais l'annoncer à la télé. Donc pour faire chier la speakerine, on avait dit, voilà.
Non, mais c'était des années absolument incroyables. On se rappelait. Ça fait vieux combattant. La grille des programmes, à 10h, Chantal était à l'antenne. À 13h, c'était Bruno Carrette.
Et après, c'était Nagui.
Et après, je prenais l'antenne. On était tous les trois. Et je n'oublierai jamais, c'est la première fois de ma vie que je voyais à côté de moi des personnes vivantes qui passaient à la télé. Si tu veux, c'est la première fois. Tu es sur la Côte d'Azur. Et je rencontrais Chantal Lobby, qui était la vedette locale. Je rencontre Bruno Carrette, que je ne connaissais pas. Cette émission Bzzz qui démarre. Et donc, tu es dans une salle de rédaction. Il y a un écran télé comme ça, où il y a leur émission qui passe. Et tout le monde regardait tellement c'était drôle, tellement c'était fou. Et j'étais à côté de Bruno en train de regarder la télé. Et j'ai dit, c'est génial, Bruno, de passer à la télé. Comment on fait pour passer à la télé? Et Bruno me dit, pour passer à la télé, faut être moche. Et t'as toutes tes chances.
Ah, le recrutement, pas mal.
Exactement ça. Bah oui. Exactement ça. Et c'est Chantal et Bruno qui m'ont présenté le papa de Clémentine, qui était le patron de Radio France.
Gossin. Clémentine Gossin, monsieur Gossin, oui.
Exactement.
Là, c'est une histoire de famille, tous ensemble.
En tout cas, ce sont des choses qui ne s'oublient pas dans la vie.
Moi non plus, j'ai pas oublié.
En 86, 87, en tout cas, on pense fort à Bruno Carrette. Bah 86, 87, c'est avec Caruso de Lucio Dalla.
Ah, ça, oui.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
Moi, je peux l'écouter.
Su una vecchia terrazza. Qu'est-ce que vous avez comme image en écoutant
Bruno.
À nouveau Bruno.
C'est lui qui était arrivé d'Italie avec ce titre. Et on passait notre temps à l'écouter. Et un jour, quand il est parti, Bruno, bien sûr, en 89. Et je suis partie tourner le film d'Alain Chabat, Astérix. On est partis à Ouarzazate. Et c'est un Marocain qui m'a emmenée en voiture dans tout l'Atlas, comme ça. Et arrivé au sommet de l'Atlas, il passait des cassettes avec des chansons italiennes et tout, dans sa voiture. Et arrivé au sommet de l'Atlas, démarre le Caruso. Et Bruno me disait tout le temps, je t'emmènerai, je vais te faire découvrir le Maroc, tu vas adorer. Et arrivé au sommet de l'Atlas, le Caruso, ça part. Et j'ai appelé sa maman en arrivant, j'ai dit, je crois que Bruno a fait le voyage avec moi.
C'est vrai, franchement,
j'oublierai jamais ça. Parce que c'était sa chanson préférée, on l'avait même mise le jour de son enterrement et tout. Donc c'est vraiment une chanson qui est liée à Bruno, celle-ci. Donc, vraiment. Instant d'émotion.
Allez, on écoute.
Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica.
On va passer en 1994, où vous écoutiez.
Ah bah oui.
Quel rapport entre Alain Souchon, Foule Sentimentale, et cette période de 94 où il y a la...
J'aime ce chanteur, j'aime ses textes, j'aime sa poésie, j'aime tout ça. Et pour moi, ces années 90, 12, ça 94, j'avais l'impression que j'écoutais beaucoup du Souchon.
Très bien.
Il y a cette période-là, c'est La Cité de la Peur. C'est un film qui.
Bien tout le monde.
Mais c'est vrai que quand on dit La Cité de la Peur, tu peux pas faire ça.
Bizarre.
Je pense que tout le monde connaît ce film.
Non seulement tout le monde connaît ce film, mais ça fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui sur les gamins. Non, mais c'est-à-dire que même un gamin de 7-8 ans, là maintenant, tu lui fais voir La Cité de la Peur.
C'est drôle, parce qu'il y a un côté enfantin dans ce film.
Mais ça n'a pas vieilli, c'est ça.
Tout le monde peut se reconnaître là-dedans, dans ces bêtises.
C'est un film que vous aviez un peu écrit tous ensemble, c'est ça l'idée?
Les trois.
Tous participer à ça?
Ah bien sûr, on était autour d'une table et on se la jouait même. Hein. Je me souviens que c'est la première fois qu'on a travaillé si sérieusement. Parce qu'on écrivait nos textes, on était autour d'une table. Mais là, on avait mis, je me souviens, un tableau.
Ouais. Pour la structure?
Scène 1. Tu vois, style. On se la jouait vraiment, grand auteur.
Le point de départ, c'était de faire des parodies ou des références à d'autres films?
Non, le point de
Parce
départ,
y en
a, on a cherché.
Il y en a beaucoup, des références.
Ouais. Il y a plein de références, mais ça, c'était notre truc de travail.
Ouais, c'est vrai.
On faisait des références à tout ce. Voilà. Donc, il y a des pubs au milieu, il y a des références à des films, etc. Mais le point de départ, c'était de faire un film qui fait peur. On avait d'abord imaginé un scénar dans un hôpital, puis après c'est tombé, dans une thalasso c'est tombé. Et puis après, imaginer une ville qui est faite pour le soleil, qui est faite pour le glamour, où il se passe des crimes. Voilà, ça, ça nous amusait beaucoup et c'est parti de là.
Avec pas mal de monde au casting et un absent, c'est Gérard Lanvin. Et quand on regarde le film, il est au générique.
Bah oui, on mettait au générique. Il devait faire des trucs. Puis il a pas pu au dernier moment, je sais pas ce qu'il avait à faire. Il était en tournage, je ne sais quoi.
Mais c'est lui qui a fait la première émission des Nuls.
Ah, c'était lui notre parrain.
Ouais. Je crois
qu'il avait... notre marraine.
Il était blessé parce que au générique, il était blessé. Gérard Lanvin coupé au tendon.
Voilà.
C'est ça. Et pas coupé au montage.
Oui, il avait une blessure, il n'avait pas pu faire le film. Je ne me souvenais plus trop pourquoi. Mais...
Et Claude Berry avait refusé ce film parce qu'il le trouvait débile.
Oui, Claude Berry, il était dans notre entourage pas mal de fois. Il avait fait les Nuls l'émission avec nous. Il était en train de faire Germinal. Et nous, on lui envoyait en même temps notre scénar.
Autre
et
ambiance.
Il recevait, il disait, mais pourquoi Odile, elle ne fait pas ça avec lui? Pourquoi? Il essayait de trouver un côté très, très structuré, oui. Et donc, on s'est rendu compte très vite, au bout de trois renvois de trucs où il nous demandait des explications, que c'était pas lui. Mais donc, on a rencontré Charles Gassot qui a marché tout de suite avec nous.
Mais surtout, expliquer une vanne, c'est le pire truc à faire, quoi.
Mais je pense que Claude, il était pas dans, Monsieur Berry, il était pas dans son, dans l'élément. Il était en train de faire Germinal quand même à l'époque. C'était autre chose.
En 2003, on parlait tout à l'heure de Adamo, qui a une influence évidemment sur le titre du film. Et Chantal Lobby l'a chanté également.
Et dans ce film, vous incarnez Odile aussi.
Oui, Odile Rousselet. C'est-à-dire, j'ai pris le nom du fondateur de Canal Plus, Monsieur André Rousselet, que j'adorais cet homme. Je le trouvais formidablement intelligent et classe et tout ça. Et j'avais pris Odile Rousselet. Donc j'avais gardé le prénom qui m'avait fait connaître au cinéma et j'avais enchaîné celui de la télévision derrière. Je réfléchis toujours. Hein.
Non, mais parce qu'il faut toujours qu'il y ait des messages en tout cas.
Moi j'ai besoin
rien,
de ça.
Rien doit être gratuit.
Non, non. J'ai besoin de ça.
Un clin d'œil encore.
Donc oui, clin d'œil. Et puis là, ce qu'on entend quand même me trouver. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Adamo, j'adorais Adamo. C'était mes premières histoires d'amour, tout ça. À la fête foraine et tout, les chansons d'Adamo. Et quand je me suis retrouvée en face de lui en train d'enregistrer cette chanson, je me dis la vie elle est belle quand même. Ouais. Elle me réserve plein de surprises, c'est génial.
Et après La Cité de la Peur, est-ce que se lancer dans un projet comme celui-ci, ça n'a pas été un peu plus compliqué? On vous attendait peut-être pas dans ce genre de film.
Ah bien sûr, mais c'est Claude Berry qui m'a fait lancer là-dedans. C'est lui qui m'avait appelé un jour et qui m'a dit « Pourquoi t'écris pas toi, tes copains écrivent bien ?» J'ai dit, mais je sais pas, j'ai rien à dire. Il m'a dit, je t'envoie un petit chèque et...
Et tu t'y mets.
Ouais. Il venait d'ouvrir une boîte d'auteurs. Je t'envoie un petit chèque, tu m'envoies 10 lignes. Allez, tu m'expliques, tu fais quelque chose, bouge-toi. Et
c'est
j'ai
génial.
Écrit une première phrase et puis voilà.
C'est là le vrai rôle d'un producteur, d'un mécène, c'est d'être là
et
pour soutenir des projets.
Parce qu'après, il est tombé malade, Claude.
Ouais.
Et donc, Dominique Besnéard, qui était mon agent à l'époque, m'a dit, on va rencontrer Claudie Ossard, qui venait de faire Amélie Poulain. Ouais. Qui a lu mon scénario et qui m'a dit tout de suite, je le prends, je le fais.
Génial.
Donc voilà.
Allez, reparlons de Sol, ce film demain au cinéma avec Chantal Lobby et Camille Chamou. Bonjour Sophie Gaillet. Vous êtes fondatrice du site grandmercredi.com, le premier site consacré aux grands-parents. Comment définir la relation d'ailleurs entre enfants et grand-mère et grand-père? Est-ce que c'est une espèce de lâcher-prise parce que les grands-parents autorise.
C'est le bordel.
Autorise aux petits-enfants ce qui n'autorisait pas à leurs propres enfants à l'époque.
Je ne sais pas si on peut dire que c'est le bordel, mais en tout cas, on peut dire qu'ils ont un recul que les parents n'ont pas. C'est-à-dire que les parents, on dit toujours, ils sont dans le devoir brossage de dents, et les grands-parents, dans les règles du quotidien, ils rentrent du bureau, brossage de dents, devoir, dodo. Bon, et les grands-parents apportent de la magie, apportent du temps, du recul, des histoires, ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans Sol. Qui est cette mission transmission qu'a cette grand-mère. Clairement. De raconter l'histoire du papa
et qui devient de l'éducation finalement
et c'est qui devient de l'éducation qui a à la fois le temps, le recul,
la sagesse et en même temps l'envie de mettre de la magie dans la vie des petits enfants.
Le sucre après 17h.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire, pas d'interdit.
C'est très drôle le sucre après 17h. Il y a pas tellement d'interdits. Bah c'est-à-dire qu'on va pas à l'encontre des règles que les parents ont fixées, ça c'est certain. Là, on le sent très bien d'ailleurs dans le film. On va pas à l'encontre des règles, mais on a envie parce qu'on sait, parce qu'on a vécu. On a envie de mettre un peu de magie.
Et surtout, on sait que c'est provisoire, que les parents vont récupérer les enfants après 17h ou après les vacances. Ouais. Donc même s'il est énervé parce qu'il a pris du sucre après 17h, à 19h, c'est les parents qui se fadent l'enfant qui peut pas dormir.
Il y a rien de définitif. On dérègle un peu et puis il y a toujours les parents pour régler derrière. Donc,
voilà. Est-ce que la place des grands-parents aujourd'hui, vous constatez avec votre site, parce que le principe de votre site, c'est de raconter-nous exactement.
C'est un site qui accompagne tous les grands-parents partout en France. Dans le rôle qu'ils jouent auprès de leurs petits-enfants.
13, 14 millions de grands-parents en France.
15 millions de grands-parents.
15, pardon.
15 millions. 85% des seniors sont grands-parents ou vont le devenir. Donc
d'accord.
On a 15 millions de grands-parents en France.
Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de familles formidables ou de familles recomposées rajoute finalement le nombre de grands-parents dans ces familles et diminue leur rôle? Parce qu'avant, on n'avait que deux grands-mères ou deux grands-pères pour ceux qui avaient la chance d'avoir
encore des parents. Les
mettre en conflit. Ouais. Non, le rôle n'est pas diminué. En fait, le rôle, il n'est pas diminué. Il est d'ailleurs même plutôt plus important qu'avant. Pourquoi ? Parce que les parents, les deux parents travaillent. La mère et le père travaillent aujourd'hui. Donc, on est obligé de compter sur les grands-parents. Et les grands-parents n'ont pas le choix, quelque part, d'être mobilisés par la génération des parents. Donc, on a des chiffres qui sont incroyables. On a 9 heures par semaine. La moyenne en France, les grands-parents avec leurs petits-enfants, c'est 9 heures par semaine.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Donc au fait, il y a une mobilisation de cette nouvelle génération de grands-parents qui devient, accrochez-vous, à 54 ans en moyenne. On devient grand-parent à 54 ans en moyenne en France.
Punaise.
Donc on est hyper jeune,
j'ai
en pleine forme.
Ma fille, moi.
T'as quel âge,
58.
Bah alors
Non, toujours pas grand-père. Enfin, que je sache.
Bon, j'aurai un texto pour grandir. Ouais,
faut que je te parle.
Non, mais il y a une mobilisation naturelle quelque part. Les parents travaillent, rentrent du bureau tard, n'ont pas autant de vacances que les petits-enfants.
Bien sûr.
Donc on a finalement une mobilisation de la génération de grands-parents qui a 55 ans en moyenne.
Qui est plus en forme.
Qui est très en forme et qui a envie. Qui a envie parce qu'ils ont un peu plus de temps, qui commencent à lever le pied professionnellement parlant. Et ils ont envie de s'occuper de leurs petits-enfants.
Est-ce que finalement, ils ne s'occupent pas plus de leurs petits-enfants qu'ils ont pu s'occuper de leurs propres enfants ?
Certainement.
Ils ont, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Chantal, justement. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'envie de reprendre le temps, deuxième de redécouvrir chance. Ce qu'on a fait plus rapidement en tant que parent.
Ou rattraper quelques oublis. Je ne me suis pas assez occupé de mon enfant, cette fois-ci, je ne vais pas passer à côté de mon petit.
Exactement. Ouais. Et se replonger dans une passion, ce qu'on voit aussi beaucoup dans le film, on se replonge dans une passion au travers de sa grand-parentalité. Là, c'est la
comme
musique.
La musique, ouais, c'est ça.
Et voilà, on a envie de transmettre cette passion et on se replonge dans cette passion assez naturellement.
Alors, ces grands-parents aujourd'hui sont, entre guillemets, moins vieux que les grands-parents des années 60-70. C'est-à-dire qu'ils restent, comme vous l'avez dit, physiquement plus en forme. Ils sont branchés, connectés quand même sur les réseaux sociaux, les internets.
Ils sont branchés, ils sont connectés, complètement connectés. Ils sont surtout sur Facebook. Ils commencent à aller sur Instagram beaucoup. Ils sont très connectés.
Ils sont obligés avec les enfants.
Ils n'ont pas le choix.
Exactement.
Ils n'ont pas le choix d'être connectés. Il faut qu'ils soient très proches de la génération des parents, des belles-filles, des gendres, des enfants. Et en même temps, très proches de leurs petits-enfants qui grandissent avec les réseaux sociaux, Internet et tout ce qui va avec. Donc, ils sont obligés, pour rester connectés à leurs petits-enfants, d'être évidemment dans le coup. Et donc, pour être dans le coup, on est quasiment autant connecté que les parents quand on est grands-parents. Donc il y a très peu de différence entre les parents et les grands-parents, quelque part.
Et c'est des 68-arts aussi, les grands-parents d'aujourd'hui.
C'est des 68-arts, ils sont libres. Et ça, c'est un point qui est très très bien retranscrit dans le film, encore une fois. C'est qu'on voit la liberté de cette grand-mère qui est dans une forme de cadre, va à la sortie de l'école et fait un certain nombre de choses dans les règles, mais elle est libre. Elle danse, elle chante.
Elle est amoureuse librement.
C'est pas conventionnel, l'histoire d'amour, elle n'est pas conventionnelle. Donc c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est bien dans ce film, c'est qu'on voit vraiment cette logique d'une génération qui est libre, moderne et qui n'a pas envie qu'on les mette dans des cadres.
Moi je vais aller le voir moi.
Et qu'on appelle plus papy ou mamie, c'est ça aussi, parce qu'il y a même la dénomination du grand-parent, j'ai la sensation qu'elle a beaucoup évolué.
Elle a beaucoup évolué, le petit nom papy, mamie, ringard, il reste encore un peu en fond parce que ça peut être des histoires de famille et voilà.
C'est mignon,
mais on a envie de plus de modernité. Ouais. Et seul, d'ailleurs, pourrait être un petit nom de grand-mère quelque part assez sympa.
Parce de plus en plus,
vous avez appelé votre site Seul.
Je l'ai appelé Grand Mercredi pour le jour.
Moi, j'adore ce nom. Grand Mercredi.
Et genre justement, puisque c'est un site qui s'adresse aux grands-parents, ils ont aussi un pouvoir d'achat, ces grands-parents, parce qu' ils ont des moyens que
s'ils vont jusqu'à 64 ans, qui est l'âge pivot.
Okay. On a dit qu'on parlait pas du tout de retraite, mais effectivement, c'est une génération qui a un peu plus de moyens que la génération parentale, et donc il y a une entraide financière qui est très significative de la génération parentale. Alors à la fois en étant le troisième mode de garde en France, donc ça c'est les chiffres, les grands-parents sont le troisième mode de garde en France. Bon.
Ça coûte rien. Donc,
évidemment, et c'est un mode de garde gratuit.
On a confiance.
Et de l'autre côté, on les prend en vacances 22 jours par an. Quand on est grands-parents, on prend ses petits-enfants en vacances. Donc évidemment, c'est une charge en moins pour les parents. Et un certain nombre d'autres choses, comme les activités extrascolaires, etc., qui sont souvent pris par les grands-parents.
Oui. Ça s'appelle Grand Mercredi, grand-mercredi.com pour être précis. Merci Sophie Gaillet d'être venue à ce micro. Tanguy Passureau, bonjour. Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous nous emmenez en Finlande aujourd'hui.
Oui, c'est un pays étrange, hein, peuplé de gens qui s'appellent soit Häkkinen, soit Räikkönen et qui regardent la neige tomber en mangeant des yaourts et en pensant à la possibilité de mettre fin à leur jour. Mais la Finlande, c'est aussi un pays de progrès parce qu'il est géré par une coalition de 5 femmes dont je ne vais pas dire les noms parce qu'il y a trop de lettres et 14 accents par lettre.
Très bien, ça sera pour les infos de midi tout ça. Pour ce film, sol comme Solange, sol comme la note de musique, sol comme soleil, sol comme aussi...
Comme le poisson.
D'accord.
Non, il va tous les faire.
Non, j'allais dire comme seul aussi.
Seul. Vous êtes plus poétique que moi tout de suite. Et vous avez raison.
Parce qu'elle est un peu... Elle se sent un tout petit peu seule malgré son succès.
Bien sûr. C'est ce grand moment de solitude. Elle revient dans un pays qu'elle a quitté depuis pas mal d'années. Elle va essayer de rencontrer une famille qui ne la connaît pas et qu'elle ne connaît pas. Retrouver un vieil amant.
Tu peux en dire plus que sur le poisson et la sole, où là, on aurait eu du mal à développer le film.
Que vous cherchiez, cher Nagui, plein de mots qui correspondent à sol.
J'avais trouvé la solitude, c'est ce à quoi je voulais...
Sinon, il reste 22 minutes dans l'émission, on peut chercher tous les
tous les mots qui commencent par sol. Ouais, déjà, il y a la sole du...
Le plancher.
Ouais, c'est ça.
elle est au sol.
En tout cas, elle est extrêmement aussi riche et elle va cacher finalement aussi ce confort matériel vis-à-vis de sa...
Comme elle a menti sur elle, qu'elle se loue un tout petit appartement et tout...
Elle passe une suite d'hôtels parisiens extrêmement chic à un appartement d'étudiante.
Voilà, elle fait les deux.
tout en ayant quand même de la fourrure, tout en ayant quand même des sacs de marque, ce qui n'étonne pas Camille Chamou. Il n'y a aucun moment où elle dit comment elle a pu se payer tout ça.
Non.
Sauf un bijou que vous lui offrez, si, qui là la bouleverse.
Quand même.
Ouais. Oui, mais on peut se dire c'est une vieille dame qui a gardé ce sac depuis très longtemps.
Ouais,
et
ça,
donc c'est un vestige de son passé.
Sûr.
Elle est très élégante.
Elle est élégante.
Très chic.
Alors que sa belle-fille, pas du tout.
Ouais. Elle a inventé le chic. Elle a inventé la classe.
Elle marche toujours sur des talons hauts. Elle est toujours à talons, sur des talons perchés.
Même quand elle fait du jogging.
Et voilà, elle reste sur les pointes.
Oui. Elle essaie de se maintenir.
Et Camille Chamou, c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir être le moteur de l'humour. Et là,
elle est solaire, Camille, quand on la voit. Elle est toujours sourire. Elle est
dans
toujours...
la vie, oui. Mais oui, là, dans le film, elle est totalement refermée sur elle-même, extrêmement tendue,
complètement
stricte, sévère. Elle ne laisse rien passer à son fils,
non.
Parce qu'elle veut le protéger finalement aussi, parce que il est la perle de sa vie. Elle veut
lui donner l'éducation entre guillemets, une bonne éducation. C'est-à-dire que tout ce qui est fantaisie, c'est éliminé de leur vie. Pas de fantaisie, rien. Sérieux.
Ça vous a renvoyé à quelques images de vous en tant que maman. On peut pas faire un film comme ça, ni même le voir, nous, comme spectateurs, sans se projeter, soit comme fils d'eux ou petit-fils d'eux.
Ça m'a projeté déjà dans le côté musicien. Quand le petit prend la guitare, moi je me souviens de Jen prenant sa guitare petite. Moi, je sais pas du tout jouer de la guitare. Je regardais faire, j'étais touchée par ce don que je découvrais chez elle, pardon.
Elle est en train de démonter la maison.
Voilà, donc il y a des choses comme ça que j'ai retrouvées, oui.
Et le fait de se dire, est-ce que je passe assez de temps avec mes enfants? On l'a évoqué tout à l'heure.
Mais c'est vrai, on se pose toujours, toutes les mamans peuvent se poser, qui travaillent.
Bah déjà, tous les parents se disent, on n'est pas des bons parents. On n'a pas été suffisamment attentifs ou présents pour eux.
Oui, on se fait toujours des reproches après. Puis quand même, c'est la vie. Puis des fois, je regarde,
je me dis quand même, elle a été privilégiée aussi, elle a eu de la chance. C'était même si je me suis débrouillée en travaillant de la voir, de la faire garder souvent, de quand je la voyais pas assez, c'est elle qui venait nous rejoindre au studio là-bas des Nuls, avenue Gabriel, qui regardait les chanteurs, qui c'est peut-être ce qui lui a donné ce goût aussi de faire ce métier, de la scène. Donc tous ces reproches qu'on peut se faire, effectivement, c'est aussi des bonnes choses. C'est qu'on les, on leur apprend aussi à se démerder tout seul, à se débrouiller. Faut pas tous se mettre sur le dos. Après, on peut comprendre.
Contrairement à Camille Chamou, qui elle se met une pression de dingue.
De dingue, voilà.
Elle est rongée.
Elle est seule. Elle doit exister en tant que mère et potentiellement en tant que père. Enfin, elle doit jouer un peu tous les rôles.
Donc elle a une grosse responsabilité.
Et puis surtout, c'est un film d'autant plus merveilleux qu'il y a Batman quand même dans le film aussi. On a oublié de préciser la présence de Batman.
C'est vrai.
Ça s'appelle Sol, c'est demain au cinéma avec Chantal Lobby et Camille Chamou. C'est un bon pitch, ça.
Et on apprendra des proverbes indiens.
Et on a même Chiznan.
Exactement.
Et vous voyez, il y a plein de trucs quand même dans ce film. Oh là là. Plein de belles choses.
On a envie d'y aller. Tanguy Pastio. Tanguy, entre l'Australie hier, la Finlande aujourd'hui, j'ai l'impression que vous en avez marre de la France.
Oui, ras-le-bol de ce pays totalement passéiste. On est des croutons. Notre destin est de finir dans une soupe de poisson qui pue et s'enrouille par-dessus parce qu'on est déjà rouillé. La France, c'est ce pays où en 2020, Philippe Labro écrit dans Le Point. Rien n'a bougé depuis 74, même pas le pucelage de Mireille Mathieu. Même Macron, quand on l'a élu, on pensait qu'il serait foufou. Un jeune plein de sève qui ferait l'amour aux arbres du jardin de l'Élysée. Ça aurait pu donner du plaisir à deux, trois hiboux cachés dans les trous. Tu parles! Dans sa tête, il a 103 ans. Il utilise des mots comme croquignolesque et galimatia. C'est pas un homme, c'est une partie de scrap jouée par le fantôme de Jean Le Canuet. La France, c'est fini. Même les migrants qui campent le long du périph', si Stéphane Plaza leur file un F2, ils lui diront « Bébé, t'as cru qu'on voulait rester ici, à Looseland ?» Non, on veut aller en Angleterre, pays préservé culturellement parce qu'ils n'ont ni TPMP ni Aya Nakamura. En France, on est tous là à dire que c'était mieux avant. On pouvait rouler bourré, on fumait, on bouffait. On avait la vie de Philippe Lelouch. On vit dans passé. Mais moi, quand le type d'Engie est venu installer mon compteur Linky, il m'a dit ça aurait fait plaisir à Claude François. Forcément, chaque semaine sur la 3, il y a 4 hommages au Carpentier. Et alors, c'était mieux avant, je veux bien, mais le Sacha Show avec Sacha Distel qui fait l'amour à la caméra avec son regard qui sent les testicules, merci. J'aime autant François Langlais qui a la même voix soif de gros obsédés, mais parvient à nous intéresser à l'économie. La France s'est terminée. Alors que prenez la Finlande. Ah, la Finlande. Voilà un pays qui fait moins rêver que l'invention du sextoy en laine de verre. Mais qui avance? Les mâles blancs. Ils les ont mis à la benne, comme le frère Nabila si elle avait reçu dans sa boîte aux lettres le numéro 1 de la collection Les Grands Classiques de la Littérature, au prix de lancement de 19 centimes, puis 700 euros le livre suivant. En Finlande, ils ont des femelles blanches, de 30 ans, une équipe de coalition menée par 5 femmes est au pouvoir. Et c'est vrai que la femme, c'est comme le retour du vinyle, on en parle beaucoup, mais personne s'y met vraiment, ça décore. Regardez chez nous Muriel Pénicaud. Vous croyez qu'on lui aurait donné l'intérieur, le Quai d'Orsay? Non, elle a eu le ministère de l'Emploi. Un titre honorifique, il n'y a pas d'emploi. Et pendant ce temps, Édouard Philippe Castaner, tous les poilus de la joue qui font cracra, ils ont les bons jobs, mais aussi des effets comme Bruno Le Maire. En Finlande, exit les mecs, ils ont 5 dames, dont la première ministre Sanna Marin, 34 ans, dont le magazine Elle, en France, dit « cheveux au burn, teint de porcelaine et regard couleur baltique ». Vous avez sur le site de la SPA, la page adoption de chat, la description est la même. Voyez le chemin qu'on a à faire en France. Jamais on ne dira de Jean-Yves Le Drian, cheveux, pas de cheveux, teint blafard et dents jaunes. Mais une femme, directement, on parle de son physique. Dans un sens, moi j'aimerais qu'on me parle du mien, au lieu de toujours écrire en entrée d'article, c'est un talent pur, un génie.
Bon, concrètement, revenons à Sanna Marin. Qu'a-t-elle annoncé pour l'instant?
Bah forcément de bonnes choses, c'est une femme. Depuis MeToo, c'est à la mode d'être une femme. Si c'est Brune Poirson qui avait géré la réforme des retraites, c'était signé il y a 2 ans leur truc. Mais Édouard Philippe, le grand duduche du 7-6, il est plus ringard qu'une partie de Pong sur Amstrad 460. 64. Donc Philippe Martinez, Gérard Junior en 82, là, il s'est dit « je vais l'éclater ». Sanna Marin, elle vient quand même d'annoncer dans son pays la semaine de 4 jours de travail et les journées de 6 heures. Et là, je dis « oui, je pars en Finlande ». Mon esprit y est déjà. Là, dans ma tête, je chevauche un élan qui lui-même se roule dans un yaourt géant. Les Finlandais ont raison. Assez de ce rythme, le travail, c'est du temps perdu. C'est Benoît Hamon qui est dans le vrai. Un meeting tous les 2 mois pour faire suer de désir les 4 derniers gauchos. Le reste du temps, il fume les cheveux de Lionel Jospin dans de bébé. Ça, c'est la vie. Le travail, c'est de la crotte. Ralentissons. Nagui, oubliez votre logique productiviste. N'oubliez pas les paroles tous les 15 jours. Ça suffit. Le reste du temps, écran noir. Enfin, vous nous manquerez. Là, vous êtes tout le temps là. Accessible, offert telle une geisha qui ne retrouve pas ses boules. Enfin, la rareté est bien précieuse. Regardez Faudel. On le voit plus. Et ben, si demain il rechante. Bon, bah rien, mais ça pourrait, hein. Mais alors, attention, bémol, Sana Marine, notre idole planétaire post-masculinité, dit que la journée de 6 heures sur 4 jours permettra de passer plus de temps avec sa famille. Et ça, personne ne veut. Tout le monde vient de passer les fêtes en famille, c'est un enfer. Si on aime tant ses enfants, c'est parce qu'on n'a pas le temps de les connaître. Hier matin, devant les écoles, des mères éreintées crient aux instits, gardez le gosse, j'en veux plus. Foutez-le sur le bon coin. Appelez Gabriel Matzneff pour lui écrire des poèmes. Enfin, moi, j'ai donné. Mais pourquoi est-ce qu'on bosse comme des bœufs pour oublier qu'on a une famille et qu'on est vide et qu'on va mourir comme le modem ou le climat, hein? On s'abrutit pour ne pas penser aux Philippines dans les ateliers de confection. Croyez-vous qu'ils pensent à la mort? Non, ils n'ont pas le temps. Ils meurent d'épuisement. Et parfois, en magasin en France, on retrouve un employé dans un paquet de t-shirts. C'est dégoûtant. Alors, dans une semaine, il y a 168 heures. En Finlande, ils bosseront 24 heures. Il va leur rester 144 heures en famille. Ça va se finir à la Dupont de Ligonnès. Donc, vive la semaine de 70 heures, c'est ça le vrai progrès social. La CGT n'a rien compris.
Merci, Tony
Casso. Et Tanguy, tu seras à
Tanguy
Tinqueux.
Président, moi, je
ouais,
dis.
Et président, le 19 janvier, à Tinqueux. C'est près de Reims.
Ouais,
c'est Tinqueux. Ne me demandez pas. C'est comme ça.
À Tinqueux.
À Tinqueux.
Ouais, près de Reims.
Évidemment.
Ouais. Ah, j'étais sûre, Tanguy.
Un bon coup de Reims. Allez. Autre chose. C'est les seuls, c'était pas mal, finalement.
Des questions concernant ce qui se passe dans l'actualité culturelle, à part la sortie du film Sol demain au cinéma avec Chantal Lobby et Camille Chamou. Je voudrais que vous me disiez, s'il vous plaît, on est donc en 2020, mais c'est encore le temps des palmarès de 2019. Il y en a régulièrement, si je vous dis Parasite comme étant Palme d'Or, oui. Irishman de Scorsese et comme étant le film français.
Français.
Qu'est-ce que je...
Irishman, c'est pas un film français.
Non, c'est un film américain. Par contre, c'est un film.
D'accord, ouais. c'est un film. Le film français Atlantique, Amazing Grace, le doc sur Aretha Franklin ou la série Fleabag, cette sélection-là...
Golden Globe,
c'est... Non.
C'est quoi la question?
À qui appartient cette sélection? D'où vient cette sélection?
Ah, Obama.
Obama.
Oh oui, Obama, joli. Obama, oui. Ah ouais.
Il y a eu du Julien Lepers là. Ah oui, joli.
Je dis que c'est arrivé très vite. Oui, l'ancien président a bien sûr mis American Factory, le documentaire qu'il a produit avec sa femme Michelle et qui est présélectionné pour les Oscars dans sa liste. Mais ça, c'est une belle sélection, j'ai envie de dire. Un Parasite, Irishman, le film français Atlantique, Fleabag, oui,
incroyable.
Évidemment. Amazing Grace sur Aretha Franklin.
Pas de prise de risque, quoi.
Non.
C'est classique.
Bon. C'est ouais, Obama, quoi.
Quelle serait votre sélection à vous pour 2019, vous avez
aucun.
Aimé quoi?
Rien? Aucune. Non.
Aucun film?
Non.
Mais
il n'y a pas eu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2?
Même pas une série?
Si, mais bon,
si, mais
aucun.
Elle l'a vu, oui.
Je l'ai vu, non mais aucun. Non, si, j'ai vu Hors Normes, moi, il n'y a pas longtemps, ouais, que j'ai adoré Hors Normes.
Évidemment. Toledano, voilà. Nakash
et Toledano. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore?
Oh, La vie scolaire qui était chouette aussi.
C'est vrai, La vie scolaire, encore malade.
Le portrait de la jeune fille en feu.
Non.
Oui.
On compte quand même bien sur 2020, puisque 2019, c'était pas fort niveau.
Mais non, c'est vrai, tu plaisantes. D'accord, ou quoi, ouais. Il y avait plein de trucs. Non,
alors, casse-moi puis... musique cette fois-ci, avec. Attends, je peux même vous faire écouter les extraits au fur et à mesure, dans cette. Que je me trompe pas.
J'ai du mal à poser les questions. Ouais,
je suis tranquille.
Bah oui, mais je veux bien commencer par lui, mais il est où?
Ah, là, je t'avais dit, je cherche pas.
Tu veux qu'on chante?
Il y est pas.
Ah,
non,
ouais, on peut alors, faire, alors, il y a. Lonely Boy.
Attends. Ça aussi.
The National.
Non, je ne veux pas de reconnaître.
Non, non, ça, mais j'aime juste bien.
C'est très agréable, mais est-ce qu'il y a une question?
Il y a une question.
C'est le même producteur.
Tous ces titres de 2019, c'est la sélection. Mais...
Obama, on a compris.
Ouais, c'est ça.
Oui, bah oui.
C'est encore Obama.
Ouais, c'est encore Obama. Ouais.
Non, mais est-ce que t'as fait la même question? T'as juste changé le thème?
Non, juste
là,
voir si
faut travailler. Ça commence à se voir.
Est-ce qu'il a un petit top 5 des restaurants?
La fourchette d'Obama.
Okay. Ça ne sera pas
qui
Obama.
Qui était président avant Donald Trump?
Écoutez. Mariah Carey.
Oui. Si elle a vendu le plus d'albums de cette chanson cette année.
Non. Depuis le 1er janvier, elle a une particularité, laquelle ?
Elle a refait le clip.
Mmh, ouais, mais c'est pas
non,
ça.
Non, c'est d'avoir un numéro 1 dans chaque décennie, non ?
Exactement. Ouais. Oh. Elle a été numéro 1. Ouais.
Dans les... Mariah Carey, je suis autant Isabelle Carré qu'on avait hier, je suis pas fort, mais Mariah Carey. Je...
Elle a été numéro 1 dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, ouais. Et maintenant 2020, puisque ouais. Le 1er janvier, c'était ce titre a été numéro 1.
Ah ouais, quand même, avec la musique.
Avec. Ce titre.
Ouais, voilà, One Focus. Ouais. J'adore cette chanson. Elle me rend dingue. J'adore.
Ce qui est fou, c'est comme la Reine des Neiges. Une fois que tu l'as entendue, tu l'as dans la tête pendant toute ta journée.
Ça me dégoûte. Hein.
Vous avez l'air.
Oui, moi j'aime bien. J'aime bien.
Ah bon ?
Dès qu'on a un truc dans la tête, j'aime bien moi. Moi en ce moment, c'est ça va, ça vient.
De Vita et Slimane.
Oui.
C'est ça ?
Ouais. C'est dommage, je n'ai pas là tout de suite. D'accord, ok. Donc vous êtes très.
Je suis ça en ce moment.
Très, ça va, ça vient. Ok.
Ça
très
va,
bien.
Ça vient.
Pour lui aussi, ça va, ça vient. C'est Daniel.
Comme ça.
Hier soir, c'était le retour de l'émission romantico-scientifique de M6, Marié au premier regard. Bizarre quand même le concept. Hein. Des gars et des filles passent des tests de compatibilité. Si ça colle. On les convoque à la mairie et hop, mariage. À peu près précipité
tout de suite,
quand même. Tout de suite, ils ne se sont jamais vus. Alors, à poil au premier regard, oui, je comprends, ça arrive. Pas assez à mon goût, mais ça arrive. Et ça peut se comprendre. Mais marié au premier regard, pas mal de risques quand même. Moi, perso, même au 10e, au 50e, au 100e, au 10 000e regard, j'ai toujours des doutes, les amis. Hein, et... Non, s'il y a un truc qui peut servir de révélateur pour savoir si on est fait l'un pour l'autre, et ça tombe hyper bien que vous soyez notre invité aujourd'hui, Chantal, pour votre film Sol, s'il y a un truc qui ne trompe pas, c'est le tango. Oh ça, le tango ne ment pas. Le tango ne ment jamais. Le tango, c'est la passion pudique qui se dissimule derrière un rideau émotionnel apparemment rigide qui ne demande qu'à s'effriter. On se regarde d'un œil sombre, on s'attrape sans s'agripper et c'est parti. Les corps se veulent, mais ils résistent. L'homme fait tournoyer sa cavalière et la femme s'enroule autour de lui pour éviter le vertige. Et puis, sous la moiteur oppressante du dance floor, au reflet argentin, on s'agratouille. Le premier et la première goutte de sueur vient perler au front des deux protagonistes. Ça s'emballe. Les épaules sont toujours impeccables, mais le souffle devient court et les rotules ondulent. Les lèvres sont sèches, l'œil est humide, la truffe est chaude. On a envie de passion, on veut du rapprochement, on veut du contact. Et puis, comme une bénédiction, le voilà qui arrive. Le tango ultime. Mais pour ça, il faut le partenaire idéal. Faut pas du demi-sel, faut du potentiel explosif. Là, je regarde autour de moi dans l'équipe. Denis Deras, assistant de production. Non, trop dépressif.
Salut.
Vanina Scalia, la production, elle aussi. Non, elle est corse. Elle est capable de me plastiquer les genoux si j'assure pas. Hélène Couillum-Dior, la réalisatrice de l'émission. Ouais, Hélène, c'est Hélène. Parfait. Ouais. Hélène, l'arménienne. Traumatisée par les Turcs, elle a la rage du génocide. Ça sent la braise. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour entamer ce chemin de Compostelle de la passion qu'est le chef-d'œuvre de Carlos Gardel. Ah, là, on sait qu'on ne sortira pas indemne. Ah oui, on ne peut plus respirer par le nez, la colonne d'air est trop pressante. Ah, on a la bouche entrouverte à la recherche d'un oxygène qui a du mal à se frayer un chemin dans la torpeur latine. Ah, c'est un chemin sans retour. There is no coming back, baby. On peut dire n'importe quoi, ça n'a aucune importance. N'importe quelle conversation se transforme en invitation brûlante. Dis-moi, Hélène, tu penses quoi de la réforme des retraites et de l'âge pivot ? Oh oui, fais-moi pivoter, j'ai les hanches en feu. Casse-moi le bassin, Chiquito.
Non.
Et l'évasion de Carlos Ghosn, c'est dingue, non ? Oh, c'est dingue et génial. Moi aussi, je veux que tu m'enfermes dans une malle, et puis que tu me secoues, et que tu rentres dans la malle avec moi, et que tu m'achèves de plaisir. Bref, tout ça pour dire que l'amour au premier regard, c'est du pipeau. Seul compte comme verdict, le tango.
Merci, d'ailleurs.
Avec Nadine. Donc, et bon appétit.
Hélène Guillaume-Jean qui réalise cette émission et qui est en régie, pendant que tu faisais ta déclaration, a dit « Casse-moi le bassin, c'est déjà fait.
» Je te dis ça, Hélène Douce.
Elle a dit ça.
Ça explique la démarche. Ça explique la démarche.
Ça serait pas l'air de Philippe Bertrand. Là.
C'est l'air de ça va, ça vient.
Tu le sais, dans la vie, on s'est tous plantés.
Non, mais c'est pas
jamais. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait. On est tous sortis du chemin.
Voilà. Tous mes amis.
Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient.
C'est ça, Jean-Louis Aubert.
Alors, ouais, tu,
on aurait pu passer Jean-Louis Aubert.
Non, j'aime bien les deux.
Mais il y a aussi le tango.
Ah bah oui.
Et la BO de Sol. Célèbre interprète de tango argentin qui vit en Argentine depuis de nombreuses années, qui a perdu son fils et son fils qui est mort au moment où il allait devenir papa. Justement, blessure pour cette femme, retrouver ce petit-fils qu'elle n'a jamais connu, retrouver cette belle-fille avec qui les rapports ont été rompus dès le début de l'histoire d'amour même entre son fils et elle. Et toute cette reconquête va se faire avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'éclat de rire, beaucoup de tensions, de doutes. Il y a aussi quelques larmes, mais qui font se poser des questions, peut-être des bonnes questions. Ça reste une comédie, ça reste extrêmement touchant et très, très, très enrichissant humainement. C'est le mérite que je trouve à ce film. Qu'est-ce que tu pourrais en dire avant que nous...
Qu'on peut rêver de Chantal Lobby en grand-mère.
Fanny
Ruet. Ça
serait
un joli cadeau.
Merci.
Fanny, qu'est-ce que tu dirais?
J'ai très envie de le voir parce que comme Chantal, comme Tom le disait tantôt, si je suis dans cette émission, c'est que forcément j'ai une fascination morbide pour les problèmes familiaux. Donc
oui, vous avez tous des fissures quelque part.
Oui, c'est ça.
Tanguy,
ils sont tous timbrés. Hein. non, moi j'espère que ce film fera partie de la sélection 2020 des films de Barack Obama. C'est tout ce que je peux souhaiter à ce film. Voilà.
Allez, ça va.
Courage.
Tom Villa.
Que Chantal Lobby, elle a pas fini de nous montrer toute sa palette d'actrices.
Clairement.
Et je pense qu'elle en a encore sous le pied.
Daniel Morin.
Moi je pense que c'était fait sur mesure pour Chantal, puisque c'est très difficile comme art, c'est très délicat, la glace est très très fine, pour passer de l'émotion, comme elle sait le faire dans le film, à des parties de rire qui sont irrésistibles aussi. C'est une performance et je pense qu'il y a quelqu'un qui pouvait faire celui-là.
Vous êtes gentil de me dire tout ça, je suis très émue.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise à la sortie de la projection de Sol? Vous aimeriez entendre un spectateur ou une spectatrice dire quoi de ce film?
J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai aimé. Voilà. J'aimerais qu'ils disent ça, puis de dire aussi ma famille, je vais la regarder autrement.
C'est ça, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire.
Voilà. Je vais regarder mes proches autrement, ouais. Je vais essayer d'être plus indulgent avec eux, je vais essayer de ne pas me fâcher bêtement avec eux, je vais essayer de les aimer. L'amour.
Et ça peut faire partie des bonnes résolutions de 2020 dont parlait tout à l'heure Fanny Ruet, à part celle qu'elle a prise. Est-ce que vous avez des projets précis sur cette année, justement?
Non.
Vous faites la voix du film Docteur?
Oui, j'ai fait la voix du film Docteur de Michel. Ils m'ont appelé, j'ai trouvé ça très drôle d'aller le faire comme ça. J'avais pas vu le film ni rien, je savais même pas de quoi ça parlait. Et je me suis retrouvée avec les scènes de Michel Blanc en train de discuter avec lui, comme ça, à travers l'écran.
Une sorte de standardiste SOS médecin, quoi,
voilà.
Ou j'ai d'urgence médicale de Paris. Ouais, c'est ça.
Voilà, Suzy qui lui donne le travail qu'il a à faire.
Et un docteur qui va être. C'est une sorte de Cyrano d'Edmond de Rostand, c'est ça.
Je suis contente de le retrouver. J'avais été sa femme dans Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve,
oui.
Et j'étais contente de retrouver Michel à travers l'écran.
Alors tout c'est sorti au cinéma, mais qu'est-ce qui va sortir?
Écoutez, on parlait tout à l'heure du cinéma, j'ai eu une année un peu compliquée parce que je suis tombée trois fois. Je me suis fait deux entorses et une fracture de la L3 avec tassement. Donc ce qui fait que je suis restée très enfermée chez moi. Ça peut faire rire, mais franchement, même moi en le racontant, j'ai envie de rigoler.
C'est pas un problème d'oreille interne, tout simplement?
D'équilibre?
D'équilibre.
Non, c'est pas
un
problème. C'était une trottinette. Une trottinette la première fois.
Ah oui,
forcément.
Et un chien la deuxième fois qui...
Il faut pas monter sur les chiens, Chantal.
Ni sur la trottinette, apparemment.
Qui m'a couru dessus.
C'est une trottinette qui vous est rentrée dedans.
Mais c'est-à-dire, j'ai voulu l'éviter. C'était au moment de Notre-Dame. J'habite sur l'île et il y avait le feu, il y avait des trucs. J'ai voulu éviter la trottinette et je suis tombée et je me suis fait une entorse.
C'est-à-dire que je venais de commencer la trottinette et bon, je me suis cassée
rapidement. Je faisais pas la trottinette.
Ça veut donc dire que vous avez mis quelques projets de côté.
Donc, ce qui veut dire que j'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que j'avais mal partout. Donc, c'était une année complètement entre parenthèses. Donc là, je lis des choses et je vais m'y remettre.
Très bien.
Comme on dit.
Vous serez toujours la bienvenue ici, en tout cas.
Merci, je le sais.
Sol, demain au cinéma. Et demain, c'est Daniel Pénac que nous allons recevoir dans la bande originale. Passez une très bonne journée avec Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Désolé mon petit Daniel. À demain. Bonne journée,
Merci
bonne journée, Philippe Bertrand.